Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Donc vous avez compris qu'il y a maintenant désormais une petite mise en bouche d'une heure avant nous. Donc la before de l'émission, le warm-up comme on dit. Et maintenant, les choses sérieuses reprennent. Non, mais de rien, Michel. Ne me remercie pas. Donc, du coup, on se retrouve ici très nombreux dans le plateau et avec beaucoup de testostérone, finalement, puisqu'il n'y a que des mecs. Laurence n'est pas là ce soir parce qu'elle avait un problème de garde d'enfant. Bon, comme je dis, employer des femmes, voilà. Comment ça se passe?
Un peu misogyne.
Non, mais j'aime bien cette boutade, évidemment. Puis la semaine dernière, c'était l'anniversaire de la petite de Laurence. D'ailleurs, j'ai oublié de lui dire bon anniversaire, Garance. Elle a 2 ans. Voilà, ça aurait tout. Alors, ce soir, donc, je retrouve Yvan Mitifio, qui fait partie des meubles quasiment maintenant de l'émission, puisque ça fait à peu près 1 milliard d'années que tu viens.
Ça fait 8 ans. Bonsoir tout le monde.
Et bonsoir Yvan. Fabrice,
bonsoir.
Voilà, qui va venir, qui est venu aujourd'hui, en tout cas, ce soir, nous parler de la PMA, de PMA.
Ouais, de PMA, des débats qu'il y a en ce moment, avec voilà. Ça, ce que ça arrive, etc.
Ouais, ouais, parce que la manif pour tous, ils remettent le couvert, quoi.
Bah ouais, puis à Lyon, en plus, ils ont fait leur colloque de rentrée
c'est ça.
À Perrache.
Donc, exactement.
Voilà, on est bien outils à Lyon.
Voilà, donc on reviendra là-dessus. Et puis, j'ai ma chère sœur Lola Rosa.
Bonsoir les enfants, bonsoir mes petits choux, soyez dans la paix et dans la joie.
Qui s'est extirpé de sa cellule de réclusion dans laquelle elle vit actuellement.
Mmh.
Et pour venir nous voir.
C'est toujours avec un grand plaisir.
Telle une apparition.
Oui.
Alors merci.
Bon, mais il faudra faire vite parce que j'ai un poulet sur le feu quand même.
D'accord, pas de problème, ça ne dure qu'une heure.
Oh, parfait.
Voilà. Et puis notre invité ce soir, principal je dirais, notre invité de marque, nous vient de Marseille. Et c'est un invité, comment dire, qui étonne beaucoup quand on dit qui tu es, en fait, parce que souvent les gens ils me disent mais les bras m'en tombent. Alors pourquoi ils disent ça? Parce que tu es musulman, bon là il n'y a rien d'extraordinaire, tu es imam, pour l'instant ça va, mais en plus tu es ouvertement homo, c'est ça?
Et absolument, oui.
Voilà, alors tu t'appelles Mohamed, ton nom c'est Zahed, c'est ça?
Mm-hmm.
Voilà, mais j'ai vu aussi, bon déjà bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
J'ai vu aussi chose qui m'a interpellé, parmi toutes les choses qui m'ont interpellé. Tu as accolé à ton nom, donc Mohamed, le prénom Ludovic. Et je me suis dit, est-ce que avant l'heure, il aurait suivi les instructions d'Éric Zemmour, et qu'il ait voulu franciser son nom pour montrer en fait qu'en tant que musulman, tu étais bien intégré à la culture française, à la société française. Parce que toi, tu étais algérien, tu es né en Algérie.
Alors, je suis né en Algérie en 1977, donc j'ai fêté le week-end dernier mes 41 ans. J'ai grandi principalement en Algérie, mais on a aussi vécu à l'étranger par du fait du travail de mon père à l'époque. Et effectivement, quand on a quitté l'Algérie définitivement, j'avais 17 ans, en 95, à cause de la guerre civile notamment, et la fermeture des lycées français, j'étais francophone là-bas, même si j'étudiais aussi en arabe, mais à la madrasa, à l'école coranique. Quand je suis venu en France, ça m'a pris plusieurs années pour me sentir chez moi, et j'ai eu le déclic en fait en voyageant à l'étranger, ce qui est quand même assez symptomatique de la culture française. Je me suis senti français ailleurs qu'en France, où j'expliquais mon histoire très compliquée, etc. Et c'est là, aux États-Unis, à San Francisco, quand j'étudiais l'anglais, en tant qu'étudiant, où très naturellement les gens m'ont dit bah oui oui d'accord mais maintenant t'es français. Et ça m'a fait un déclic. Quand je suis rentré en France après, j'ai décidé de prendre la nationalité, de faire tout ce qu'il fallait pour m'intégrer comme on dit, et non pas m'assimiler comme dirait Éric Zemmour. On m'a proposé à la préfecture de changer de prénom, et donc sur les papiers français je me suis dit c'est une bonne idée, parce qu'il y avait déjà à l'époque pas mal de racisme, de jobs, d'appartements qui m'étaient refusés comme ça, ad nominem, en raison de mon patronyme ou de mon lieu de naissance. Et donc c'était simplement pour des raisons pratico-pratiques, ça n'avait rien d'idéologique.
D'accord.
Mais sur les papiers algériens, j'ai toujours mon passeport algérien avec Mohamed, l'autre fille, dessus. Non, le Ludovic, parce que c'était une façon de franciser mon deuxième prénom.
Voilà. Deuxième prénom. Alors, est-ce que tu comprends quand je dis que je, quand je te présente et que je dis que les gens, quand j'annonce par exemple que je vais recevoir un imam gay, est-ce que tu comprends que les gens, ils en ont les bras qui tombent? Parce que personne n'imagine qu'un imam puisse être ouvertement homosexuel. Et voilà, tout simplement parce que la religion musulmane, l'islam, a priori, et on n'est pas là pour faire évidemment le procès de l'islam, parce que ça concerne aussi beaucoup de religions, mais a priori n'est pas une religion particulièrement gay-friendly, on dira.
C'est plus le cas depuis une centaine d'années, mais pendant des siècles, on a eu les mille et une nuits, qui regorgeaient d'histoires à propos d'amour homo-érotique, de relations sexuelles entre hommes, ou entre femmes, d'images sexuelles liées à la sexualité féminine. Tout ça, ça a disparu à partir du début du XXe siècle, où sous l'impulsion de nationalismes patriarcaux arabo-musulmans, africains, enfin, venant des ex qui ont vu le jour dans les ex-colonies, on a expurgé de la culture arabo-musulmane tout ce qui avait attrait à la sexualité des femmes et à l'homosexualité. Mais ça s'est passé malheureusement ailleurs, face à la colonisation, à une agression extérieure, ce rejet de la féminité et cette hyper-normalisation viriliste et patriarcale des identités nationales, ça s'est passé dans tout un tas de cultures, y compris la culture européenne au XXe siècle en Allemagne, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Donc ce que je veux dire, c'est que ces limites, on pourrait décrire ça comme un processus organique, humain, un instinct animal de conservation. J'entends l'infrahumanisation, ce qu'on appelle en psychologie sociale, l'infrahumanisation des minorités et des femmes. Pour mettre en avant voilà, le virilisme, les identités les plus violentes, les plus patriarcales, pour défendre le groupe, la nation, la tribu, la communauté, peu importe comment on l'appelle. C'est ce qui s'est passé aussi dans le monde arabo-musulman depuis 100 ans, mais on en revient aujourd'hui depuis les printemps arabes, avec des printemps arabes qui se transforment parfois en hiver glacial pour les minorités LGBT+, comme en Égypte. Mais en Tunisie, ce n'est pas le cas. C'est le premier pays dit arabo-musulman qui a reconnu pour la première fois de l'histoire du monde arabe, une association LGBT en tant qu'association LGBT, Shems. L'homosexualité n'est pas criminalisée en Jordanie. Enfin, il y a des raisons d'espérer dans des pays où il n'y a pas de conflit pour le pétrole, pour la terre, pour le canal de Suez. Les minorités ont le droit au chapitre et au débat démocratique. Donc j'ai envie de dire que c'est l'homophobie d'État et la transphobie d'État qui ne font pas partie depuis l'origine de la culture arabo-musulmane. C'est l'homo-érotisme, c'est la tolérance. Alors la tolérance, c'est pas parfait, mais ça a existé pendant des siècles dans l'Empire ottoman. Il n'y a pas de trace de condamnation de l'homosexualité dans les archives juridiques de l'Empire ottoman. Des exemples comme ça, je peux en donner plein. L'imam d'Al-Azhar, Al-Azhar, l'université égyptienne qui est ultra, ultra conservatrice aujourd'hui et hyper homophobe, était au XVIe siècle dirigé par un imam qui était un grand fan, j'ai envie de dire, de poèmes homoérotiques, qui disait des choses du style, je paraphrase, à son mignon, quand tu viens me visiter la nuit avec ton long sabre, et tout le monde comprenait qu'il ne parlait pas d'un sabre, mais d'un phallus. Et ça a été perdu après la chute de l'Empire ottoman, après la Seconde Guerre mondiale.
D'accord. Alors je reviendrai là-dessus, sur ce que tu viens de dire. Par contre, je vais me tourner vers Sœur Lola Rosa. Ce que Sœur, finalement, c'est une émission œcuménique.
Oh, enfin, n'exagère pas quand même.
Puisque toi, tu représentes la religion des Sœurs de la perpétuelle indulgence.
Mais on n'est pas une religion, nous. N'exagère pas. On est une plaisanterie.
Alors,
une sacrée blague.
Une sacrée blague. Bon, en tout
qui a bientôt 40 ans.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'une sacrée blague, mais basée sur l'imagerie catholique, en fait. Les sœurs.
Oui, dès le début, les sœurs ont souhaité jouer avec cette image de la bonne sœur.
Alors, justement, il y avait déjà à la base aussi une satire de l'Église, notamment catholique, qui n'est pas plus gay-friendly, en fait, que...
Oui, c'était un peu pour faire un pied de nez à toutes les églises chrétiennes, qui sont très nombreuses, enfin, tous les courants chrétiens et églises chrétiennes qui sont très nombreux aux États-Unis.
Et donc, vous, ma sœur, parce que il y a deux principes que je vous vois quand vous venez à l'émission.
Ah, mais c'est bien, mais tu peux...
C'est par respect, vous comprenez.
C'est très gentil.
Et j'emploie le participe passé avec vous, le subjectif imparfait.
Voilà. Parfait.
Donc, lorsque je vous ai dit, par exemple, est-ce que vous avez eu une réaction aussi, stupéfaite, je dirais, que celle que je décrivais au début de l'émission?
Non, mais pas du tout.
À savoir un imam gay, comment est-ce possible?
Non, moi, ça ne me... Je suis pas stupéfait.
Ça ne vous paraît pas
honteux? Non, absolument pas. Non.
Et si vous aviez des questions, justement, par rapport au fait islam, musulman et gay, quelle serait votre question, par exemple?
Bien, écoute, je crois que... Enfin, moi, j'aurais pas de questions particulières, mais par contre, ce qui m'interroge, mais qui interroge, je pense, beaucoup de gays, beaucoup de lesbiennes, beaucoup de trans, etc., c'est comment on peut vivre sa sexualité tout en étant à la recherche d'une spiritualité et trouver des personnes qui vont nous accompagner dans cette recherche, parce qu'il y a quand même des questions un peu fondamentales que tout être humain se pose. Et alors après, il y a des courants philosophiques, il y a des courants religieux, il y a des spiritualités qui proposent de répondre à ces interrogations que tout être humain se pose. Et je ne doute pas que notre cher Frédéric accompagne un tas d'hommes.
Ludovic. On l'appelle le Mohamed, voilà. C'est mieux.
Mohamed, je ne doute pas que notre cher Mohamed accompagne des tas d'hommes, des tas de femmes, etc. Et quel que soit leur genre, du reste, vers des cheminements spirituels pour aider ces personnes-là à supporter leur vie, à supporter le monde d'aujourd'hui, j'imagine.
Oui, c'est ça. Le fait d'être imam, en tout cas en ce qui me concerne, et en ce qui me concerne la plupart des imams progressistes qui m'ont raconté aussi leur histoire, c'est né d'un besoin d'une communauté qui s'est formée, qui s'est agrégée autour de cette idée qu'il fallait défendre nos droits, et être plus visible, si ce n'est à titre individuel, en tout cas en tant que communauté, quelle que soit l'acception qu'on donne à ce terme. Et à un moment, on a poussé en avant, y compris dans notre communauté en France, des gens qu'on pensait les plus qualifiés, comme moi, qui ont étudié les sciences islamiques en arabe, qui ont fait des études de psychosocial, d'anthropologie. Mais j'ai dit dès le départ que pour moi, c'était un service, une fonction et certainement pas un statut, que tout le monde peut être imam. En arabe, imam, c'est simplement quelqu'un qui est... Fondamentalement, ça veut dire quelqu'un qui est devant, qui ouvre la voie, et les gens peuvent suivre cette voie ou une autre parallèle, ou voilà, chacune est libre. Mais l'idée, c'était vraiment un besoin de visibilité, de défense et de safe space, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de lieux sécurisés où les gens peuvent échanger sur ces sujets qui sont quand même assez douloureux, parce que à la question de la transphobie, de l'homophobie, etc., s'ajoute la question du racisme, de l'islamophobie depuis quelques années. On parlait tout à l'heure de Monsieur Zemmour, mon compatriote. Et voilà, donc il y a un moment, à partir des années 2009-2010, on a senti que ça devenait une question politique qui était de plus en plus visible en France, mais aussi en Europe du Nord, au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la question de ce qu'on appelle l'homonationalisme, c'est devenu une question globale, internationale. Il faut s'y intéresser, c'est super important, y compris pour des gens qui n'ont aucune croyance, aucune diversité ethnique, j'ai envie de dire, dans leur famille, dans leurs origines. C'est très intéressant parce que de s'intéresser à la minorité au sein de la minorité, ça dit beaucoup de choses sur les dynamiques sociales qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans nos pays en Europe. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'oxymore, il n'y a pas de schizophrénie. Aujourd'hui, à 40 et quelques années, je le vis super bien. Si je vais en soirée gay avec des copains, mais je m'amuse, on rigole, on soutient les uns les autres, etc. Si je suis à un institut de formation à Marseille, à Calais, j'apprends des choses, j'essaie d'enseigner le plus possible. On s'accompagne les uns les autres, on est imam à tour de rôle. Ça peut être un homme, une femme, une personne trans, identitaire. Ça pose aucun problème. On se pose, en tout cas, plus ce genre de questions en ce qui me concerne. Et c'est ce que j'essaie de transmettre le plus, cette question de l'autonomisation des individus qui font partie de plusieurs communautés minoritaires et discriminées à l'heure actuelle. C'est super important. Et ça peut nous en apprendre en termes de tolérance, de vivre ensemble à tous et à toutes.
Alors, donc là maintenant, je vais me faire un peu l'avocat du diable, si j'ose dire. Je suis pas un spécialiste de l'islam, loin s'en faut. Par contre, quand on se réfère aux écritures, alors déjà, beaucoup, peu de gens connaissent vraiment l'islam, hein, il faut reconnaître. Déjà, le religieux est quand même un peu évacué de nos vies quotidiennes en France, qui soi-disant donc a des racines chrétiennes, mais qui sont de plus en plus diluées maintenant dans la culture, dans la société française à l'heure actuelle. Donc déjà, les gens connaissent mal leur propre religion, mais alors l'islam n'en parlons pas, qui considère, beaucoup de gens considèrent d'ailleurs encore que c'est une religion extérieure, alors qu'il y a beaucoup de points communs entre le christianisme et l'islam, puisque l'islam, c'est la dernière religion du livre, en fait, mais les bases restent le judéo-christianisme aussi de l'islam. Là-dessus, je ne pense pas que tu me contrediras. Mm-hmm. Alors, les gens connaissent peu l'islam parce que, pourquoi ? On parle du Coran, mais les gens ne savent pas très bien ce que c'est que le Coran. Et je sais qu'il y a plusieurs parties. Alors, moi, j'ai entendu parler des hadiths, par exemple. Tu vas me dire ce que c'est les hadiths, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vas-y, je te laisse.
C'est la tradition du prophète, paix et bénédiction sur lui. Donc, la jurisprudence islamique, même si c'est un terme que j'essaie de déconstruire au maximum, la charia. La charia, pour moi, c'est une voie. C'est la traduction littérale de sharia en arabe, une voie spirituelle, mystique surtout. Mais la jurisprudence islamique est principalement basée sur... la parole du Coran, qui est considérée par l'immense majorité des musulmans comme étant la parole de Dieu, et les traditions du prophète, les hadiths, qui sont plus ou moins authentifiés, dont on pense qu'ils sont plus ou moins véridiques, mais enfin, même le Coran a une histoire, comme la Bible, comme la Torah, ça a été écrit, c'est pas descendu du ciel en une nuit, selon moi, c'est clair, c'est net, c'est précis, dans mon esprit en tout cas, historiquement parlant, et même théologiquement parlant, c'est la religion musulmane, le Coran, c'est un produit social, c'est un produit, ça a été produit par une partie de notre humanité, c'est pas descendu du ciel, c'est un dialogue entre ce qu'on appelle Dieu, l'esprit divin et les êtres humains à une époque donnée, ça moi j'y crois, mais c'est pas descendu du ciel comme ça d'un coup sans prendre en compte, c'est ça que je veux dire, toute la diversité de l'humanité à l'époque où le Coran a été entre guillemets révélé. Et donc à l'époque, voilà, la tradition nous dit que le prophète des musulmans a accueilli chez lui des hommes efféminés, des femmes masculines, qui leur donnaient du travail, qui les protégeaient de manière proactive contre des gens qui voulaient les tuer parce qu'ils troublaient, littéralement c'est comme ça que c'est dit dans la tradition, ils troublaient la communauté des femmes et des hommes. On ne savait plus en gros qui était un homme, qui était une femme. Ça leur posait à certains d'entre eux des problèmes, mais pas au prophète, selon la tradition. Je ne sais pas si c'est vrai, j'y étais pas il y a 14 siècles. Mais selon cette tradition, on ne peut pas dire que le prophète était homophobe et qu'il demandait de tuer tous les homosexuels, les hommes efféminés, etc. Là, il n'y a pas de trace de tradition dite véridique qui serait homophobe ou transphobe, bien au contraire. Après, si on reste sur le Coran, je pense que c'est encore plus clair. Il n'y a pas une seule fois le terme homosexualité cité dans le Coran, même si maintenant l'Arabie Saoudite traduit le Coran en plusieurs langues et rajoute depuis quelques années, je l'ai constaté, entre parenthèses, après Sodome et Gomorre, la fameuse cité de Sodome et Gomorre, les sodomites, ils rajoutent maintenant entre parenthèses la cité des homosexuels. Mais ce n'est pas dans le texte original. Donc c'est une preuve supplémentaire que ça ne parle pas d'homosexualité. Tous les versets du Coran qui parlent de Sodome et Gomorre parlent de violence, de viol rituel au temple de la déesse Ishtar. Hérodote, historien antique, des centaines d'années avant le Christ, paix et bénédiction sur lui, déjà en parlait et n'était pas monothéiste. Donc, je veux dire, ça tient vraiment à rien, cette idée de faire un lien sémantique entre islam et homophobie. Et encore une fois, c'est quelque chose de très moderne, cette homophobie d'État qu'on voit devenir de plus en plus radicale, de plus en plus patriarcale et fascisante dans les pays arabo-musulmans. C'est un siècle, c'est pas grand-chose au vu de 1400 ans d'histoire arabo-musulmane.
Alors moi ce qui me plaît dans les religions, enfin dans cette religion-là, c'est aussi que c'est donc, comme je le disais, et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une rupture avec ce qui existait déjà, c'est un continuum en fait. Et justement, tu citais la fameuse cité, les cités Sodome et Gomorre, qui ont été maudites par Dieu, qu'on retrouve dans la Bible. Parce qu'en réalité, tous les prophètes de la Bible se retrouvent dans l'islam. Et également, Jésus est dans l'islam. Et je crois que la mère même de Jésus est une des principales personnalités féminines de l'islam.
Ah ben, il y a tout un chapitre, une sourate, qui s'appelle Mariam, Marie, où elle est décrite comme une femme pure, qui a enfanté un enfant saint, Donc c'est très proche finalement de la narration qui en est faite dans,
voilà,
dans
certaines branches. Lui, Mohamed, finalement, le prophète, lui, il a repris une tradition déjà existante et il a, je dirais entre guillemets, peut-être remise au goût du jour ou adaptée par rapport à la civilisation qui l'entourait à son époque.
Mais c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de voir toutes les religions comme une forme de spiritualité, de tradition spirituelle et non pas comme une forme de religion cléricale, dogmatique, organisée.
Ça vous plaît, ma sœur?
Non, je sais pas.
Oui, alors, on reviendra alors.
Je ne sais pas encore si c'est du lard ou du cochon.
Là,
va voir.
Je faisais les rimes.
Alors j'aime bien. Oui, c'est vrai. Mais on reviendra alors. Mettez de côté ce que vous vouliez dire, ma sœur.
C'est rapide.
C'est rapide. Eh ben allez-y, allez, lâchez-vous.
Mais je faisais les grimaces quand j'entendais cette question un peu où on essaie de noyer le poisson entre spiritualité, religion, dogme, etc. Parce qu'en fait, je remonte toujours à l'histoire de notre fondation. Un de nos credos, c'est de rejeter la honte et la culpabilité stigmatisante. Et bien évidemment, d'inviter chacun et chacune d'entre nous à rejeter les dogmes, les Bibles, les Talmuds, les Corans, les Torahs, etc., etc., de les rejeter hors de nos sphincters et de nos ovaires. Voilà. On n'a pas envie que certaines personnes nous disent qu'est-ce qu'on doit faire ou pas avec nos ovaires et nos sphincters.
Oui, alors là-dessus, on est d'accord à 200%. La différence, c'est que moi, je m'engage sur ce terrain. Religieux, spirituel au sens large. On était encore à la préfecture à Marseille le 10 septembre pour discuter des institutions qui représentent, soi-disant, qui ne le représentent pas, mais qui sont censées représenter l'islam de France, les musulmans de France, en France. Et à un moment, la politique de la chaise vide, je ne pense pas que ça nous rende service. Sans compter que la discrimination n'est pas que du côté des musulmans, comme j'ai dit tout à l'heure, cette question de l'homonationalisme qu'on dénonçait avec HM2F, l'Association des homosexuels musulmans de France, déjà en 2011, personne ne savait de quoi on parlait. C'est vrai que homonationalisme, c'est un terme qui fait faire la grimace.
Les autres, aujourd'hui, on a parlé aussi souvent ici.
Voilà, on en parle de plus en plus, on commence à se réveiller par rapport à ça. Il y a aussi des discriminations au sein des communautés LGBT de par le monde, que ça soit au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou en Europe. Donc on n'a pas à en avoir honte, mais on doit en parler sans penser que ceux qui sont les derniers arrivés, les moins éduqués, les moins émancipés financièrement, culturellement, intellectuellement au sens le plus large devraient porter ce fardeau de l'intolérance, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui nous concerne tous. Si nos identités sont intersectionnelles dans des associations comme celle que j'ai animée pendant des années, les solutions qu'on doit trouver, je pense, le sont aussi, doivent être hybrides, comme dit Homi Bhabha, un intellectuel indien postcolonial. On doit réinventer, on parlait tout à l'heure de réinventer l'amour, les relations humaines, le couple, entre plein de guillemets. Je pense que les identités ethniques et religieuses, je préférais les identités spirituelles, doivent aussi être réinventées. Sinon, clairement, alors pour les musulmans c'est clair, pour les autres religions on peut en parler, pour les musulmans c'est clair, vous avez un imam très célèbre qui s'appelle l'imam Google, et vous avez plein de jeunes, y compris homosexuels, bi, trans, queer et plus, qui vont aller sur internet pour obtenir des fatwas sur est-ce que l'homosexualité c'est halal. Moi je n'ai jamais, halal c'est-à-dire licite en arabe, je n'ai jamais répondu à cette question. Pour moi l'islam ça n'est pas un système fascisant de contrôle des identités sur une ligne, le faisceau identitaire dont parlaient les Italiens et les Allemands au siècle dernier, avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi l'islam c'est un chemin spirituel au sens mais le plus large et le plus humain et le plus divers du terme. Donc oui, la tentation ce serait de noyer le poisson. Mais je pense que entre noyer le poisson et laisser une chaise vide qui va de toutes les façons être exploitée, il y a un juste milieu qu'on ne doit pas tous incarner de la même façon, mais sur lequel on doit tous travailler. Tous et toutes travailler en collaboration, dans la diversité, l'inclusion, etc., etc., avec chacun nos croyants, chacune nos origines. Mais en tout cas, encore une fois, je pense que ça va devenir de plus en plus, ça l'est déjà, hein, mais ça va devenir de plus en plus, de manière ostentatoire, si je puis dire, une problématique au cœur de nos sociétés en Europe. ça allait déjà en Afrique du Nord depuis des décennies.
Alors donc je reviens à un petit peu avant, je rembobine un petit peu au niveau du fait que je voulais jouer l'avocat du diable. J'ai pas perdu mon fils, je vais jouer l'avocat du diable. Alors donc on a rappelé, ça c'était important de le faire, qu'il y a un continuum. On retrouve dans l'islam des choses qu'on trouve également dans la Bible notamment, et on a évoqué évidemment la fameuse malédiction des cités maudites qui a servi aussi aux chrétiens, aux juifs et aux chrétiens, à la religion hébraïque comme aux religions chrétiennes, à condamner l'homosexualité puisque les textes étaient interprétés après il y a une interprétation effectivement parce que les habitants se livraient à la sodomie, etc., à la turpitude, etc.,
au viol rituel.
Voilà. Alors, mais il y a aussi quand même en dehors de ça, donc on retrouve les deux histoires dans le livre quoi, en général, depuis la Bible jusqu'au Coran, mais ça peut être sujet à interprétation, et tu l'as expliqué, ça l'est hein, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux interprétations faites par l'Arabie Saoudite et les traductions qui en sont faites en arabe. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut quand même pas ignorer, qui est incontournable, c'est qu'il existe dans le Lévitique une condamnation formelle des rapports sexuels entre personnes de même sexe. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est contraire à Dieu. Quoi.
C'est une abomination.
C'est une abomination.
Que leur sang retombe sur leur tête, etc., etc.
Et il y a une condamnation aussi, puisqu'on appelle à tuer les gens qui ces pratiques-là, dans le Lévitique.
Alors, plein de sujets là, passionnants, je pourrais en parler pendant des heures, partout.
Et ce que je veux dire, la même condamnation existe dans le Coran. On condamne aussi, je ne sais pas si c'est un hadith ou si
oui, c'est... Oui. Là, tu fais très bien l'avocat du diable, parce que c'est ce que certains imams, comme Dalil Boubaker, l'ancien rector de la mosquée de Paris, qui était à l'Assemblée nationale pour un débat sur la question de l'homosexualité, la transidentité et les religions, lors de la journée IDAO en 2010, nous a dit. Vous avez dit, oui, c'est vrai, dans le Coran, il n'y a rien de clair. Mais par contre, dans le Lévitique, c'est très clair. C'est marqué noir sur blanc. Ouais, rien trouvé dans le Coran, il a été cherché dans une tradition...
encore plus ancienne.
Encore plus ancienne.
De 800 ans avant, quoi. 900 ans même.
Donc je veux dire, les jupes étaient interdites encore à Paris, hein, pour les femmes. Pardon, les pantalons étaient interdits aux femmes à Paris il y a encore quelques années. Une vieille loi qui est d'un code civil qu'on a encore du mal à dépoussiérer dans des domaines divers. Donc si on revient à ce qui se passait il y a 5000 ans dans d'autres sociétés, je pense que c'est pas...
Mais est-ce que dans le Coran, elle existe, cette condamnation ? Est-ce que c'est un hadith, par exemple, une parole du prophète ou...
Juste pour finir là-dessus, je suis pas spécialiste du Lévitique, c'est loin
de
Lévitique. J'ai fait des débats dans des instituts de théologie. Le dernier que j'ai fait, c'était en Allemagne avec un rabbin ouvertement homosexuel depuis 40 ans. Et clairement, il m'a donné d'ailleurs les documents dont il s'est servi. Il y a plein d'interprétations possibles de ce verset qui est traduit en général par les plus conservateurs parmi les juifs de cette façon-là. Mais j'ai envie de dire, il y en a une que j'ai retenue et que je pourrais m'attribuer, c'est quand je couche avec un homme, je couche pas avec un homme comme je couche avec une femme. Et à l'époque, ils couchaient avec des femmes d'une certaine façon dans des sociétés patriarcales où la sexualité des femmes était négligée, voire complètement niée. Elle n'était qu'un réceptacle pour la sexualité et le désir des hommes. Donc voilà.
La procréation.
Exactement. Donc si on remet tout ça dans un contexte de guerre en plus entre les Israélites d'un côté et les Sodomites de l'autre, bon, j'ai l'impression que c'est pas si étonnant qu'ils disent il faut pas pratiquer ce que les autres d'en face pratiquent. Mais encore une fois, je pense pas que ça parle si clairement d'homosexualité. C'est sujet à interprétation. Et même si c'était noir sur blanc dans le Coran, la Bible, la Torah, le code civil de toutes les nations depuis 5000 ans qu'il faut tuer les homosexuels, mais on est humain ou pas ? On croit à la démocratie, en l'émancipation, à la connaissance, au combat des préjugés. Ben, il faut réformer aussi ces textes. On ne doit pas être esclave du texte. Ça n'est qu'un texte. Aujourd'hui, en Tunisie, même si la discrimination en termes d'héritage est marquée dans le Coran, parce que le Coran a été élaboré dans une société patriarcale et sexiste. Aujourd'hui, la Tunisie a accordé, il y a quelques mois, l'égalité en termes d'héritage pour les hommes et pour les femmes. Donc, les Tunisiens, eux, commencent à comprendre, et ça fait depuis les écoles sadiqites, au 19e siècle, que ça se cultive, ça n'est pas ex nihilo. La Tunisie est une exception culturelle et politique dans le monde arabo-musulman, pour tout un tas de raisons, y compris parce qu'ils ont investi dans l'éducation du peuple depuis plus de 150 ans chez eux. Y compris des hommes, des femmes, etc. Donc, ils ont compris que la spiritualité, c'est plus important que, qu'un contexte politique, politico-religieux, il y a 1400 ans. Respecter l'éthique de l'islam, c'est comprendre que cette éthique ne peut pas s'appliquer de la même façon aujourd'hui, vu que le contexte politique a changé. Parce que si on veut rester exactement sur la même application, la même compréhension de l'éthique qui doit nous élever, qui doit nous émanciper, qui doit faire de nous des êtres meilleurs, soi-disant, en théorie, eh bien, on trahit cette éthique à la fin. Vous avez des féministes comme Kessia Ali dans son livre, dont j'ai oublié le nom, qui en parle très bien, qui essaye aussi de déconstruire l'éthique islamique en partant des textes, en ne conservant que la morale au sens le plus noble du terme, et en l'appliquant à un contexte postmoderne occidental principalement, qui n'a rien à voir avec ce qu'il était en Arabie, au fin fond du désert, il y a 1400 ans. Et encore une fois, le Coran ne parle jamais d'homosexualité ad nominem, il parle toujours de viol, de violence, de piraterie. Et il y a un verset du Coran que je cite très souvent qui dit « Ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin » ce qui veut dire « Aucun autre peuple avant vous ne s'était adonné à cette turpitude, à cette abomination. » Donc très clairement, soit on croit que la terre est plate et que l'homosexualité a été inventée à Sodome et Gomorre il y a 5000 ans, soit on se dit « ça ne parle pas d'homosexualité, ça parle de viol rituel ». Donc, de ce mélange entre politique, religion et sexualité. Et c'est exactement ce que les fascistes, les patriarches, les homophobes et les transphobes font. Donc les vrais sodomites finalement, c'est eux, c'est pas nous.
Donc on va conclure là-dessus la première partie de l'émission en tout cas. On peut quand même dire, donc en résumé, pour ceux qui en douteraient, le Coran ne condamne pas explicitement les rapports homosexuels et les homosexuels.
Jamais, nulle part, et même si c'était le cas, il faudrait interdire ce type d'interprétation en France. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. De dire le Coran considère que l'homosexualité, c'est une abomination, c'est passible de 5000 euros d'amende. Pour moi, c'est clair, c'est net.
Alors, sœur Lola Rosa est en verve ce soir et a envie de parler. Allez-y, ma sœur, vous êtes
c'est
là pour ça.
C'est pas une conclusion que je voudrais faire, c'est juste un petit mot. Je pense que le travail que nous avons à faire, parce que je comprends bien maintenant dans quelle logique tu es, et je pense que nous, les sœurs, on est aussi dans une logique... un peu semblable autour de la spiritualité, parce que ce que je constate, c'est que nous, on rencontre des tas de personnes qui sont en recherche spirituelle. Et ce qui est très difficile pour ces personnes-là, quand elles sont LGBT et plus, etc., c'est justement de devoir gérer le rejet des institutions religieuses, quelles qu'elles soient, hein, parce qu'elles sont nombreuses, je ne vais pas toutes les citer, mais bon, elles sont globalement toutes d'accord pour être homophobes, mais bon, ces personnes-là, elles doivent gérer justement ce rejet, tout en étant dans une recherche spirituelle, parce qu'elles ne veulent pas abandonner leur recherche spirituelle. Et je vois que bon, on est donc nombreux à les accompagner, à les conforter, dans le sens que il n'y a pas de honte à avoir d'être homosexuel. Il faut rejeter justement cette stigmatisation, cette culpabilisation qu'on voudrait nous mettre sur les épaules. Et voilà, moi je trouve que ça c'est plutôt positif d'être dans cette logique-là. Voilà. Et donc je constate que nous ne sommes pas les seuls à agir dans ce domaine-là.
Eh bien voilà. Donc je vous explique comment ça va se passer la deuxième partie de l'émission. On reviendra à toi, Mohamed. Donc parce qu'on parlera de façon plus concrète de tes actions justement sur le terrain. Voilà. Là on a été un petit peu justement un peu dans l'abstraction, mais là on va être dans le concret. On va écouter un petit morceau de musique. Alors je voulais passer ce morceau depuis longtemps et je trouve que c'est bien que tu sois là parce que je vais passer du Rachid Taha. Voilà, qui...
Le défunt,
voilà. On a déjà fait un hommage à Rachid Taha, mérité, d'ailleurs. Et puis moi, je voulais passer absolument, justement, Rock El Casbah, qui est une excellente reprise des Clash, que j'adore, personnellement, et que beaucoup de gens aiment, évidemment. On va la passer, et puis avant de lancer l'émission... La chanson.
Envoyer la sauce.
Avant d'envoyer la sauce, on va se retenir encore un petit peu, ma sœur. Juste après la chanson, c'est Fabrice qui nous viendra nous parler. Donc,
oh oui,
il est déjà là. Ah, sœur Lola Rosa, tout est moustillé.
Ah oui.
Ouais. Donc, du coup, va falloir.
D'autant plus que je suis à côté de lui aujourd'hui.
Bah, oui.
D'habitude, je suis en face. Non,
ouais.
Mais là, carrément, je suis à côté, quoi. Quand même.
Ouais, c'est bon, il y a des serpillères, de toute façon, pour
un effet. C'est impressionnant, quand même. We'll be right back.
get a boogeyman. Another rag of a crow. Wish, wish, head and photo. But drops are a seal. She is a good cardiac. Rabbit for centre ville. Can't be a will.
Chérie, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Chérie, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah.
I'm recherching a fête. I come in the boogie. Met the rouge, the rouge, the hole. بدوية خارج وصوت كي شافو شيخ بعد منهم وعد منهم بالجيتار على عقب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا خرجوا من الحدود
شريك وضعك رب الكاسبة رب الكاسبة شريك وضعك رب الكاسبة رب الكاسبة.
Attention, baisse la musique.
C'est ça.
Donc la continuité d'émission s'est faite en off pendant que nous étions en rachita. Alors, ça avait l'air très intéressant ce que vous disiez. Malheureusement, les auditeurs et auditrices n'ont pas pu en profiter. Mais je vais passer la parole tout de suite à Fabrice. Alors toi Fabrice, tu veux nous parler de PMA, comme on disait en début d'émission.
Ouais, de PMA, de valeur, tout ça. Je suis désolé, j'ai beau retourner mon texte dans tous les sens, je peine ce soir à trouver des blagues pour ornementer ma chronique. Parce que ça y est, depuis le lancement du débat sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la saison de la chasse aux PD et aux Gwyn est ouverte, et plus encore à Lyon qu'ailleurs. Faut dire que la capitale de la Gaule, on est bien chanceux, ça c'est incroyable, hein, avec Vauquier, l'anti-mariage pour tous, qui a coupé presque toutes les subventions aux associations LGBT, Marion Maréchal, nous voilà, petite fille Le Pen, qui a installé son école pour former l'extrême droite, et puis la Manif pour tous, qui prend ses racines entre le Rhône et la Saône pour son congrès de rentrée annuel. Ah, et puis j'oubliais le best du best, le number one des intégristes lyonnais qui nous mettrait probablement bien tous à gire au fond du Rhône une pierre à la cheville, le cardinal Barbarin et sa calotte pourpre qui hurle d'horreur quand on lui parle d'homosexualité et pour qui la seule famille normale, c'est papa dans maman en position missionnaire avec éventuellement une petite claque sur la fesse à Noël, ça fait pas de mal. Pendant ce temps, les évêques de France ne sont pas en reste, puisqu'avec la Manif pour tous, ils prennent en otage depuis des mois la réflexion menée par le Conseil consultatif d'éthique au sujet de la PMA. Bah oui, forcément, parce que pour les curés, le fait que deux femmes puissent élever un enfant, ça met en danger les enfants. Non, mais on rêve. Demander à l'Église catholique sur le bien-être des enfants, et pourquoi pas demander à Émile Louis d'animer une colonie de vacances ayant pour thème la danse contact. Bon, on commence à avoir l'habitude, hein. C'est la même rengaine depuis 1998 et les premières discussions sur le Pax. On a encore en mémoire la Boutin brandissant sa Bible dans l'hémicycle, criant à la fin du monde engendrée par une fracture irréversible de la famille. Ça a continué de plus belle en montant d'un cran dans la violence au sujet du mariage pour tous en 2013, avec ses flots de haine homophobe en marche dans nos rues sous la bannière de la Manif pour tous, où on nous compare sans gêne ni complexe à des chiens, des pédophiles, des invertis, des pervers et bien plus encore. Il suffit juste de regarder les quelques micro-trottoirs réalisés pendant ces rassemblements pour bien cerner le fond de commerce de ce mouvement nauséabond. On ne peut donc que se préparer à une montée en puissance de cette haine homophobe dès qu'on touche au sacro-saint fondement de la France, celle du général Pétain, travail, famille, patrie. Oh là là, que de beaux souvenirs de cette glorieuse partie de notre histoire. Bon, je vous la fais courte. En fait, c'est pas très compliqué et puis c'est toujours le même schéma. En gros, à chaque fois qu'un petit pas est fait pour écrire dans la loi française que les PD et les Gouines sont finalement comme tout le monde, ni pire ni mieux, et que par conséquent, ils peuvent prétendre aux mêmes droits, systématiquement, des voix se lèvent et hurlent à la disparition de la civilisation, à un chamboulement profond des principes inhérents à la nature et à la volonté divine, le tout sous fond de fin du monde et de naufrage moral. Parce que ce qui est en jeu dans tout ça, c'est juste le fait de concevoir que le modèle un papa, une maman, c'est pas forcément le seul modèle acceptable d'un couple respectable et d'une famille viable. Non, non, il n'y a pas de lobby gay, ni de théorie du genre, ni complot international pour forcer les petits garçons de 8 ans à se présenter au concours de Miss Continental. Juste des citoyens qui sont nés comme ils sont nés et veulent vivre comme tout le monde sans se faire tabasser, insulter ou être traités différemment au regard de la loi de leur pays. Parce que la seule question à débattre au sujet de la PMA n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est la question du droit de l'enfant à avoir accès à ses origines génétiques si le couple fait appel à un donneur de sperme anonyme. Que ce soit un couple hétéro ou homo, le problème est le même et la question reste entière et à débattre. Ce qui leur fait mal au cul comme un plug un peu trop généreux un soir de plan cul, c'est pas du tout le bien-être des enfants, mais bien le fait que remettre en question les fondements de notre société hétéronormée et patriarcale, fondements basés sur une homophobie culturelle. Ce qui les emmerde, c'est que petit à petit, on vienne déboulonner dans l'inconscient collectif l'idée que, au fond, deux filles ou deux garçons qui s'aiment et font l'amour, c'est quand même un peu ridicule, dégueulasse ou malsain. Depuis Stonewall, avec les avancées mondiales pour les droits des personnes homosexuelles, à défaut de mettre en péril la civilisation tout entière comme ils veulent nous le faire croire, on vient effectivement toucher au fondement de l'homophobie, qui, elle, tue, torture, discrimine et fait se suicider ou assassiner des millions de PD et Gouines à travers le monde et depuis des millions d'années. Alors, pour reprendre leur expression, moi je n'ai rien contre les homophobes, mais quand même, s'ils pouvaient accepter de glisser gentiment dans la grande fosse où on enterre toutes les atrocités générées par l'humanité depuis des millénaires et accepter de fermer leur putain de gueule en gardant leurs obsessions pour eux, ça me ferait du bien, et puis ça nous ferait à tous des vacances.
Eh ben,
bravo.
Je vous ai trouvé très recueilli.
Une très belle chronique. Merci,
très belle chronique.
Merci beaucoup, mon grand.
Et ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, que finalement, cette homophobie latente, culturelle, elle n'est pas forcément spirituelle, elle n'est pas forcément religieuse, elle est de comment la société s'est formée dans une société patriarcale, avec la mise en exergue du virilisme, tu dis mieux que moi, et puis toutes ces choses-là qui font que les gens un petit peu différents ou efféminés n'ont pas leur place, finalement.
Tout à fait, c'est dans cette perspective-là que je dis souvent que l'islam n'existe pas. L'islam, c'est quoi? C'est une idée, un idéal, une histoire, c'est de l'art, de la littérature, c'est tout un tas de choses. Mais l'islam, c'est avant tout les musulmans et les musulmanes. Au quotidien, l'islam change énormément aujourd'hui en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et en 100 ans, l'islam a été défiguré par les nationalismes, les guerres civiles, y compris entre communautés musulmanes en Algérie, je pourrais en parler. Donc, en Syrie aujourd'hui, en Libye hier. Donc ça, voilà, ça n'a rien d'islamique au sens stricto sensu. Cette question de l'exaspération des identités virilistes et homophobes et misogynes sur le dos des femmes et des homosexuels. Encore une fois, les nazis ont fait exactement pareil, en déportant les triangles roses, etc. Donc je pense qu'il faut aller à la racine, et en psychosocial c'est ce qu'on essaye de faire, d'aller à la racine du mal, monsieur Lucifer ici présent, n'est-ce pas, l'avocat du diable, et de trouver ce qu'on appelle en sociologie le facteur déterminant premier. Il n'y a jamais un seul facteur déterminant, mais en tout cas, un arbre qui cache la forêt, c'est dire ce que disent de pseudo-intellectuels du style Zemmour, qui va nous dire, voilà, 80% des crimes aujourd'hui en Europe sont commis par des gens d'origine africaine, nord-africaine en particulier. Oui, statistiquement, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette réalité? D'où elle vient? Qu'est-ce qui l'a construit? Si on s'arrête au premier arbre qu'on rencontre sur le chemin, non seulement, contrairement à ce que disait l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui espagnol, d'adoption, on n'arrive pas à expliquer. Expliquer, c'est pas excuser. On n'arrive pas, en plus, à trouver des solutions adaptées aux crises qu'on traverse. Donc on va s'enfoncer encore plus dans cette crise. Donc si on veut vraiment lutter contre les discriminations, si on n'est pas dans le cynisme politique, idéologique, et l'opportunisme, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui nous arrive en tant que société et pourquoi est-ce que ça rentre en résonance de manière si frappante, pourquoi est-ce que ça se télescope tellement fort aujourd'hui avec ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, des pays avec lesquels on avait l'impression qu'on avait complètement coupé dans les années 60 après la décolonisation et avec lesquels on est tellement liés, surtout en France, en Italie, en Grèce, voilà, l'histoire nous rattrape. Donc encore une fois, il faut vraiment comprendre ce qui nous arrive et pas juste avoir peur de ce qui nous arrive.
Alors, donc, tout à l'heure, avant la chanson donc, de Rachid Saad, je disais qu'on allait évoquer, on va malheureusement ne pouvoir que l'évoquer parce que l'émission tourne, concrètement, et puis je vous laisserai aussi la parole, ma soeur, parce que vous avez une annonce à nous faire, une annonciation,
oui,
voilà. Donc, concrètement, on a parlé de mosquée inclusive. Donc, toi, Mohamed, tu es le créateur d'une mosquée inclusive en France, la seule qui existe, et comment ça se passe justement?
Alors, on avait fondé avec d'autres une mosquée inclusive où tout le monde est inclus, tout le monde est bienvenu, à Paris en 2012, c'était la première en Europe. Aujourd'hui, il en existe des communautés telles que celle-ci, avec des mosquées ou avec des centres de formation, des centres d'accueil musulmans, inclusifs, gay-friendly, féministes, un peu partout en Europe de l'Ouest. Donc ça, c'était une grande avancée, même si c'est trop lent, mais ça quand même, ça avance. J'avais fondé l'Association des homosexuels musulmans de France juste avant, en 2010, et aujourd'hui, je suis directeur d'un institut de formation qui s'appelle CALEM, C-A-L-E-M, à Marseille.
D'accord. Alors, une personne musulmane concernée par les thématiques LGBT, que ce soit à titre personnel ou dans son entourage, pourrait éventuellement se tourner donc vers toi, parce que tu serais un interlocuteur privilégié finalement par rapport à l'approche que tu proposes.
Ça dépend pourquoi, on n'est pas expert de tout, mais si je peux aider, transmettre des bouquins...
Une personne qui aurait un problème par rapport justement à sa spiritualité et à sa religion musulmane, comme les chrétiens aussi, d'ailleurs, il existe des associations chrétiennes pour ça.
Bah, disons qu'on s'entraide, on s'accueille, on fait des groupes de parole, des week-ends inclusifs. Oui, bien sûr, les gens sont très bienvenus à nous contacter, c'est comme ça qu'on arrive à avancer tous ensemble, de plus en plus nombreux et nombreuses. Ensuite... Voilà, il faut aussi respecter ce que la personne est, ce qu'elle exprime, d'où elle vient, là où elle veut aller. Donc il n'y a pas de, comment dire, je veux dire, c'est très inclusif, mais c'est aussi très, ça dépend de la volonté de la personne. Donc il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez à quelqu'un quand vous êtes dans ce genre de situation. Ah, c'est pas condamné dans le Coran. Ah, le prophète accueillait des efféminés, etc., etc. Parfois, les plus homophobes, les plus transphobes, c'est les homos et les trans, les LGBT plus eux-mêmes, qui n'arrivent pas encore, qui ont intériorisé ces phobies, qui n'arrivent pas à déconstruire le dogmatisme religieux et qui n'ont finalement, et c'est très intriguant et très intéressant malheureusement, mais très intéressant, certains et certaines ont l'impression qu'ils n'ont plus que ça. Plus que la religion et la famille et leur communauté, comme ils disent. Alors, c'est quoi la communauté, hein? En sociologie, ça fait des décennies qu'on en parle. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur l'individu.
Alors, moi, l'autonomie. Il y a aussi une question qui m'intéresse, tout simplement, mais très basique. en tant qu'imam, tu prêches?
Je prêche, je fais des prières, je fais des mariages entre personnes de même sexe, en France ou ailleurs, et des mariages entre personnes hétéros, mais de religions différentes.
D'accord.
Et j'ai même eu un mariage où on était un prêtre, un rabbin, un imam, moi-même, parce qu'ils étaient tous les deux à moitié chrétiens et juifs, et à moitié chrétiens et musulmanes, d'origine tunisienne et algérienne, mais français. Donc ça, c'était un très, très, très... Peut-être le plus beau... mariage auquel j'ai eu la chance de participer.
Et quand tu unis des personnes de même sexe, comment ça se passe en fait?
Alors moi je n'unis personne, je le rappelle toujours dans le sermon de mariage que je fais, c'est les gens qui s'unissent, et nous ne sommes là, encore une fois, un imam c'est quelqu'un qui est en avant pour faciliter, donc je ne suis là que pour faciliter des bénédictions, des prières, d'accord, des énergies positives. Rien de tel que dans l'Église catholique qui considère que le mariage est un sacrement, que seuls les prêtres qui sont habilités par le Vatican peuvent établir ce sacrement. Non, en islam, le mariage, c'est un contrat social. Qaboul ou ijab, une demande, une acceptation devant des témoins, avec la famille, on danse, on rit, on chante, on prie. Ah, les Arabes, quoi.
Donc, par contre, ce que tu dis est intéressant parce qu'il existe certains prêtres aussi dans l'Église catholique qui, alors, ne célèbrent pas de cérémonie entre deux personnes de même sexe, de cérémonie de mariage, mais qui acceptent par contre de bénir des unions de personnes de même sexe.
Moi, je ne vois pas la différence. De toute façon, dans un État laïque, le mariage, c'est à l'État civil.
Et il y a aussi des rabbins,
pas de mariage religieux.
Il y a aussi des rabbins qui célèbrent maintenant aussi des cérémonies. Entre personnes de même sexe.
Bien sûr, je travaille souvent avec des collègues rabbins et prêtres ou diacres, parce que parfois, effectivement, avec les prêtres, c'est compliqué, ne serait-ce que de par leur hiérarchie qui pèse sur eux, même si c'est possible, j'en connais, donc il faut continuer, c'est aussi un acte militant.
Alors, pour terminer, on va rappeler quand même aussi... Alors, non, il y a encore une autre question, quand même, qui me carotte, mais je vais essayer de répondre rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, puis je voudrais que Sœur Lola Rosa nous fasse son annonciation. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà eu des menaces, du fait de ton engagement, des menaces
Beaucoup, surtout à l'époque de l'ouverture de la mosquée inclusive. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout.
D'accord.
Mais j'ai eu beaucoup plus d'encouragement. Honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de gens qui me disaient « Mais vous êtes le vrai islam. » Alors, je ne pense pas que je suis l'islam en moi tout seul.
Oui.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout l'inverse. Mais voilà, ça leur donnait espoir, comme disait Lola. C'était quelque chose qui pouvait leur donner foi en leur propre spiritualité, finalement, quand ils disent « Je crois de nouveau que c'est possible de me réconcilier avec ma famille, ma communauté, mon islam. » C'est-à-dire que c'est avec eux-mêmes, une partie d'eux-mêmes qui pouvaient imaginer se réconcilier. Donc ça, c'était... Mais ça valait toutes les menaces qu'on vous envoie d'un clic sur Facebook ou ailleurs.
T'as jamais eu peur, personnellement, par exemple?
Une fois, oui. Une fois, j'étais à la mosquée à Sevran, dans le 93, au nord de Paris. Une mosquée que je fréquentais parce que c'était juste à côté de chez moi. J'habitais là-bas pendant 10 ans. Et au moment du mariage pour tous, on s'était marié avec mon ex-mari qui à l'époque était sud-africain. C'était déjà légal depuis 2008 là-bas. Et on était venu s'installer ensuite en France. Et ils en ont entendu parler, il y a eu quelques articles dans VSD, etc. À l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Par rapport à tout ce qu'il y a eu plus tard. L'imam de la mosquée, qui était un vieux Marocain, très apaisé, très didactique, très spirituel, ce jour-là a décidé de faire un prêche, mauvaise idée, sur la question de la condamnation, enfin sur à propos de la condamnation du mariage entre personnes de même sexe en islam. Et là, les gens sont devenus hystériques, ils commencent à crier Allahu Akbar, Dieu est grand, non, ils sont pas musulmans, bref, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Bon, il s'est rien passé. Après, j'ai revu certains d'entre eux dans la rue, je les ai croisés, c'est plutôt eux qui étaient gênés que moi, ça m'a rassuré, mais ce jour-là, je suis rentré chez moi, j'étais sous la couette pendant 2 jours malade. Ouais. Donc oui, il faut le dire, parfois on a peur, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. De toutes les façons, vous savez ce que je me suis dit le lundi? Je me suis dit, mais il faudra que tu sors de chez toi un jour ou l'autre, et maintenant t'es grillé, il n'y a plus de retour en arrière, donc on continue. Et bien, j'ai pas arrêté.
Donc, on va devoir conclure l'émission. Je voudrais aussi rappeler que les auditeurs, les auditrices qui voudraient prolonger un petit peu la réflexion de ce soir, tu es aussi écrivain, tu as écrit des livres.
Oui, Le Coran et la chair, LGBT musulman, Islam en devenir, par exemple.
Voilà. Alors, tous ces ouvrages que tu as écrits, je mettrai leurs références sur les réseaux sociaux de l'émission pour que les gens puissent les retrouver.
Et l'ensemble des fonds est reversé à l'association.
D'accord. Merci Ludovic, Mohamed.
Merci à vous.
Venu à jusqu'à nous, et de Marseille donc. J'espère que c'est un début de réflexion que ceux et celles nous auront entendus pourront avoir aussi. comme un peu Sorlo La Rosa, qui a aussi posé les bases d'une réflexion par rapport à tout ce que vous avez entendu.
Ah oui, moi je suis vraiment très très heureuse que tu aies pu parler à la radio et que toutes celles, toutes ceux, et quel que soit leur genre qui nous écoutent, puissent trouver leur voix.
Alors,
amen.
Alléluia.
Alléluia. Donc merci Fabrice d'être venu avec ton éclairage sur... C'est, d'ailleurs, éclairage, c'est très bien comme ce que je dis. Est-ce que tu es régisseur lumière en plus?
Oui, c'est vrai.
Je suis trop fort, moi je suis bon. Donc merci d'être venu.
Est-ce que tu m'accordes 5 petites minutes?
Bien sûr.
Mais à peine.
Je vais d'abord saluer Yvan, le
oui.
silencieux. Parce que
oui.
pour une fois, Yvan, il est obligé de se taire.
Mais alors, ça, je pense que ça vous a fait des vacances.
Ça va être très dur pour lui. Si on a le temps, on parlera très très vite fait. Voilà, mais on n'aura pas le temps. Il y a quand même 2 événements cinéma en fin de semaine. Vite fait, vite fait. Ne parle pas des films, mais dis-nous vite.
Samedi, 16h et 20h30, 2 avant-premières au Comédia avec écran mixte. L'amour debout, très belle comédie française qui parle de bisexualité. Et à 20h30, un documentaire complètement délirant sur, qui s'appelle Cassandro The Exotico sur un catcheur complètement folle au Mexique.
Très bien. Bon, on sera en rendez-vous. Ma sœur, donc maintenant que c'est vous qui allez terminer l'émission.
Deux petites minutes pour présenter notre séjour de ressourcement qui a lieu cette année donc du 18 octobre au 22 octobre. Voilà. À Carpentras, dans la belle maison qui est gérée par la Fondation Fight AIDS Monaco. Voilà. Donc c'est un séjour
c'est
qui
Stéphanie
est à
de Monaco, oui.
Ouais, c'est un séjour qui est à destination des personnes séropositives, voyez-vous. Voilà. Et j'en profite, puisque j'ai la parole et que tu me la laisses, voilà. J'en profite pour remercier, mais vraiment vivement et très chaleureusement, toutes les associations lyonnaises et avignonnaises qui nous ont permis de financer ce séjour, plus à peu près une vingtaine de donateurs particuliers sur Lyon. Je les cite parce que c'est quand même important. Donc, sur Lyon, il y a David et Jonathan qui nous a aidés dans cette aventure. J'embrasse et je remercie énormément les Dragones et le Lavoir Public pour leur aide aussi, bien sûr. Je pense à Rando Provence, je pense à l'Association des Îles et des Ailes d'Avignon, je pense au Forum Gay et Lesbien de Lyon, voilà, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés pour recueillir les fonds nécessaires à l'organisation de ce séjour. Et n'oublions pas, une petite cerise sur le gâteau, parce qu'il faut quand même le dire, nous avons eu une petite subvention de la mairie de Lyon.
Ah, c'était formidable.
Voilà. Bravo. Un petit coup de pouce.
J'ai cru que la cerise sur le gâteau, ça allait être toi.
C'était très, très bien.
Sortir d'un gâteau, justement.
Mais ça, on peut le faire. On peut le faire. Voilà. Malgré mon grand âge, je peux encore le faire.
Ah, mais vous n'avez pas d'âge, ma sœur.
Donc, si vous avez l'intention, si vous êtes séropositive ou séropositif, que vous nous écoutez, vous serez les bienvenus. Il y a encore quelques places. Merci beaucoup. Je vous embrasse.
Très bien. Alors, donc, ça, c'est à Carpentras. Rappelle-nous le nom du lieu.
La maison s'appelle la maison de vie, tout simplement.
Ouais.
Vous tapez ça sur YouTube ou quelque chose comme ça et vous voyez très bien le local dans lequel la très belle maison dans laquelle ça se passe. Donc, la maison de vie sur YouTube.
D'accord. La maison de Stéphanie de Monaco.
Voilà, qui appartient à la fondation Fight AIDS Monaco.
Voilà. Donc, je remercie à nouveau tout le monde. Merci.
Oh, merci Gérald de ton accueil.
Merci
Ludovic. J'ai été ravi de te rencontrer.
Merci Gérald.
Je suis toute mouillée.
Ah bah, heureusement qu'il y a des serpillères. Bernard, tu passeras la serpillière après. Je ne vais pas préciser
merci
que Bernard
Fabrice
était dans le bocal
très
quand
belle
même.
Chronique.
Merci Bernard.
Bernard était dans le bocal et ceux qui étaient dans l'émission. Enfin, qui ont pris l'émission à 19h savent qu'il est là. Voilà. Ah, la chanson des sœurs.
Extra.
Que lui, il dit toujours, ça fait au moins 20 ans que tu l'as. We together.
émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.